Et nous allons maintenant parler avec Sarah de la maladie de Lyme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie de Lyme, qui est courante dans notre région d'ailleurs? Et c'est pour ça,
oui, c'est pour ça qu'on voulait aborder le sujet, c'est parce que c'est une maladie très, très présente. Et d'abord, tu pourrais peut-être te présenter, pourquoi est-ce que tu viens nous parler de la maladie de Lyme ce soir? Et puis nous dire qui tu es?
J'en connais un petit peu parce que j'ai souffert de cette maladie. Et je ne suis pas du tout expert, mais oui, le fait que c'est très courant à ce moment, est-ce que c'est parce que c'est mieux diagnostiqué ou est-ce que c'est parce que c'est en menthe? J'en suis pas sûre.
Qu'il y ait de plus en plus de cas?
Oui.
Ouais. Tu n'es pas sûre qu'il y ait de plus en plus de cas?
C'est bien possible.
Ouais.
C'est transmis par les tiques.
Il y a une sorte d'éthique, je crois, qui transmet, pas tous les tiques. Donc, si on est mangé par un tique, ce n'est pas forcément qu'on va attraper la maladie de Lyme.
Non, 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 pas forcément, non. C'est pas, on ne trouve pas dans tous les tiques.
Et puis, combien de possibilités, si tu te fais piquer, d'attraper cette maladie?
Bon, ça dépend, parce que, en fait, le bactérie habite dans l'estomac du tique, mais en petite quantité. Et le plus longtemps que le tique est sur toi et prend ton sang, c'est quand le sang commence à entrer dans l'estomac du tique que les bactéries se reproduisent. Alors, le plus longtemps que tu as un tique accroché, le plus de bactéries se produisent dans l'estomac et puis peuvent passer dans le salive du tique dans ton corps.
Donc, important, quand on enlève une tique, de pas l'enlever, mais de ne pas appuyer dessus. Parce que si on lui fait régurgiter tout ce qu'il y a dans l'estomac, en appuyant dessus, que ça nous rentre dans le sang, on peut accentuer la contamination.
Et après, très important de désinfecter sur les morsures de tique. Alors,
qu'est-ce que tu mets sur les morsures de tique?
Attendez, on a parlé d'abord de l'enlever. Alors, il ne faut pas l'enlever avec une pince, et une pince à épiler ou une pince classique à appuyer dessus. Alors, comment on l'enlève?
Oui.
Mais on peut enlever avec une pince.
Il y a des pinces à tique.
Mais oui, il y a des pinces à tique, ça existe, mais même une pince à épiler, il faut juste essayer de le faire doucement, de ne pas écraser le tique avant que tu l'enlèves.
Mais les pinces à tique, on les passe par-dessous et puis on tourne. Hein, et c'est en tournant qu'on arrive à dévisser la tique.
Oui.
Enfin, dévisser, c'est une image.
Ah oui, c'est comme un petit pied de biche.
Un petit pied de biche en plastique. Oui. Que je vous recommande d'avoir d'ailleurs dans votre trousse à pharmacie.
C'est très simple d'utilisation.
Donc, la maladie Lyme, est-ce que c'est une tique spéciale?
En fait, je ne sais pas.
Parce qu'il y a des tiques noires, il y a des tiques bruns.
Alors, attention.
Il y a des tiques.
La tique va avoir 7 mues différentes. Donc, au moment d'une éclosion, on va avoir des tiques.
Une éclosion?
Oui, une éclosion. Des bébés tiques, on va dire.
Ils sortent des œufs.
Ils sortent des œufs. On va avoir une multitude de tiques, mais qui sont très, très plus petites qu'un millimètre, qui vont d'abord sucer une première fois le sang, mais qui vont rester très peu longtemps accrochées. Alors, celle-là, a priori, n'aurait pas déjà été contaminée par la bactérie, parce qu'elle les chope dans les premières ponctions qu'elles vont faire chez les mammifères, parce qu'elles démarrent d'abord chez les petits mammifères, et puis ensuite il va y avoir une mue, elles vont grossir, et elles vont passer par cette phase. Et plus elles vont avancer dans la vieillesse, et donc dans ces phases-là, donc plus elles vont être grosses, et plus elles vont être susceptibles d'avoir attrapé la bactérie de la boréliose chez les cervidés ou chez d'autres mammifères. Les écureuils peuvent aussi être transmissibles de la boréliose. Et donc,
des souris.
Et du coup, plus la tique est grosse, et plus la morsure est susceptible d'être dangereuse.
Et est-ce qu'on a quand même plusieurs variétés en France?
Plusieurs variétés de tiques. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas combien, je crois qu'il y a 7 tiques.
Pour une même taille, j'ai déjà observé, il me semble, des tiques de couleurs différentes.
Oui, alors elles ont des couleurs différentes selon leur âge, mais aussi selon l'espèce. Il y a différentes espèces de tiques.
Donc la boréliose, tu as dit, c'est la même chose que le Lyme ou je capte plus rien?
Bah, en fait, la maladie de Lyme, c'est principalement de la boréliose. Mais il y en a plusieurs Borrelia. En France, on voit plutôt le Borreliose burgdorferi. Bon, je ne sais pas si je dis bien mon accent, mais
je
à peu près ça.
Pas, tant pis.
Il y en a d'autres.
On connaît en tout cas.
Il y a un Garini, il y en a d'autres. Mais là, le burgdorferi, c'est le plus courant en France. Mais on peut choper avec ce Borrelia par un mordure de tique, d'autres co-infections. il y a le babesia, il y a rickettsia. Il y en a des combinaisons différents.
Donc c'est un cocktail finalement, on peut avoir cocktail de boréliose.
Avec des laetitia et tout dedans. Donc c'est boréliose, c'est le plus grand de mot. La Lyme, c'est déjà la maladie concentrée.
Le borrelia, c'est le nom du bactérie.
Ouais.
Le maladie de Lyme, c'est le nom du maladie.
Okay. Et puis si je demandais la maladie de Lyme... Toi, tu l'as eu, donc tu as un peu d'expérience. Ça s'exprime comment? Quelle facette?
Quels sont les premiers symptômes?
Ben, ça, c'est très intéressant parce que c'est pas pareil avec tout le monde.
Oui, c'est très individuellement différent.
Oui, ça peut se déclarer très différemment. Tout au début, mais pas dans tous les cas, il y a après 3-4 jours, comme un roux.
Une auréole sur la peau.
Oui, autour du morsure de tique. Moi, j'ai jamais eu. Alors, je savais pas du tout que j'avais eu une morsure.
Qui n'est pas dans tous les cas. D'ailleurs, que peut avoir la maladie de Lyme sans avoir eu. Comment ça s'appelle déjà?
C'est un auréole.
Un érythème migrant, je crois, parce qu'il va bouger, il va grandir.
Oui, il va grandir.
Il va devenir dans un diamètre plus grand, un peu comme les cercles de champignons.
Voilà.
Ça va grandir comme ça sous la peau. Alors ça peut être un signe qui peut nous dire là, cette morsure de tique, elle peut être à risque.
Alors ça fait un bouton pas classique, quoi, avec soit le centre qui est clair et puis le tour qui est rouge.
Et ce rond, ce disque
là, c'est un peu particulier, quoi. Faut pas se paranoïer à chaque piqûre qu'on
a. Mais il y a des borrélioses qui ne font pas ces cercles migrants.
Ouais.
Migrants parce que c'est des cercles qui vont bouger comme ça.
Alors faut le détecter. D'abord, faut le voir si c'est sous les bras. C'est pas forcément.
Ah oui, les tiques peuvent aller dans tous les recoins du corps,
surtout les points les plus chauds.
Ouais, les plus intimes.
Oui.
Derrière l'oreille, tout ça.
Ouais. Mais alors, ce signe, ça peut être bien, parce que de voir que... Oui, ça nous montre tout de suite qu'il y a peut-être une infection. Et c'est le moment de traiter si...
Que faire à ce moment-là, alors, quand on voit cet érythème migrant?
Mais les antibiotiques... Si on les prend vite comme ça, ils sont assez efficaces.
Mais il faut d'abord faire une analyse, peut-être, ou on prend un antibiotique comme ça en préventif ou...
Ça dépend.
Ouais.
Il y a des gens qui... mon fils, par exemple, il avait une morsure de tique avec ce cercle autour. Je l'ai amené chez le médecin. Elle a donné des antibiotiques tout de suite, sans faire une analyse de sang. Elle a dit que s'il n'avait jamais réagi comme ça avant, que c'était peut-être le moment. Mais même avec autre chose, si on veut se soigner avec des plantes, c'est le moment de faire quelque chose, parce que c'est quand le bactérie a eu beaucoup de temps que ça se dissème dans le corps. Là, ça devient de plus en plus difficile de le traiter.
Donc de plus en plus on évite des graves problèmes.
Voilà.
Une fois que, comme la syphilis, d'ailleurs, nous disait Jean-Claude, une fois qu'on arrive au troisième stade, on peut mettre son gré de la maladie, de toute façon, les systèmes nerveux sont abîmés et on garde les séquelles.
Oui.
Alors que si on la prend rapidement, à ce moment-là, on peut arriver à exterminer la bactérie.
Oui.
Dans le sens, donc, vigilance.
Oui.
Par rapport aux morsures de tique.
Oui, oui. Moi, dans mon expérience et parmi les gens que je connais qui ont eu, ils ont quand même fait autre chose en plus que les antibiotiques. Parce qu'il faut vraiment... Les antibiotiques, ils ont un effet aussi... Bon, ils tuent le bactérie, mais ils ont un effet sur le foie, sur le corps. Alors, il faut vraiment... renforcer le système d'immunité et le corps. Parce que, oui, ça...
En médecine douce aussi, alors, on peut prendre de la propolis. Alors déjà, la propolis va avoir un effet sur la borrélose, c'est que ça va l'éviter de s'enquister, parce que cette bactérie, elle va se planquer dans les tissus, elle va se cacher, elle va même, des fois, muter, ou prendre des molécules de protéines et se cacher derrière, donc elle va se planquer comme ça. Et la propolis aurait comme effet, du coup, de la désenquister et de rendre les antibiotiques plus efficaces. ce qui paraît. Il y a aussi l'utilisation des huiles essentielles, donc des mélanges d'huiles essentielles qui sont à mettre sur la peau après la morsure, qui permettent de lutter déjà aussi au niveau.
Qui désinfecte déjà.
Voilà, désinfecte et puis au niveau de l'application locale. Je conseille quand même de prendre de la propolis aussi parce que ça va améliorer l'immunité sanguine, donc ça va permettre à notre corps d'être plus. Plus fort, plus robuste pour lutter contre cette borréliose.
Alors il y a deux trois cocktails de huiles essentielles.
Il y a le lemongrass, le tea tree, l'huile essentielle de basilic.
Alors il y a des mélanges qui existent.
Il y a des mélanges qui existent tout près que vous pouvez acheter.
Alors, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Tikaout par exemple.
Ouais. Et TikToks aussi.
TikToks.
Il y en a un qu'on trouvait en Suisse uniquement. On était obligé d'aller l'acheter là-bas et de se le faire livrer.
Donc c'est des huiles essentielles à mettre juste après une piqûre de tique en préventif sur la piqûre.
Et qu'on peut même boire sur le tique-out, je crois, ou TikToks.
TikToks,
voilà, qu'on peut boire. Il y a de la propolis d'ailleurs dedans.
Aussi. Mais j'ai trouvé très dur sur l'estomac.
Oui.
Alors il faut faire autre chose.
Manger quelque chose avec.
C'est du concentré, c'est très fort.
C'est très très fort.
Quand on s'en met, on met un tout petit peu, on le sent pendant longtemps.
Et est-ce que tu peux conseiller aussi des choses par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hygiène de vie qui nous permettrait d'être plus robuste à cette bactérie?
Ça dépend vraiment de chaque personne, parce que ça peut attaquer la faiblesse de chaque personne. Ça dépend un peu, mais ce qui m'a aidé énormément, en fait, j'ai fait plein de choses contre le bactérie, mais aussi pour alimenter le système le plus possible. Alors, les vitamines B, le magnésium, les oméga, les huiles oméga. En fait, j'aurais dû noter avant de venir parce que j'ai fait un tas de choses.
Les oméga 3
Les oméga 3, oui. Pour moi, j'ai eu des symptômes tout de suite neurologiques. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était le maladie de Lyme pendant très longtemps. Heureusement, quand j'ai fait un prise de sang, ils ont trouvé. Mais ça se trouve que si...
Ils ont trouvé quoi? Des anticorps?
Ils cherchent des anticorps. Ouais. Il y a deux types de tests, un ELISA et un Western Blot, qui cherchent des anticorps. Selon l'état du corps, à ce moment-là, la quantité de IgG ou IgN, c'est les anticorps, peuvent changer. Alors, de faire une prise de sang, pour moi, je trouve que c'est pas vraiment assez pour voir si on a sûrement une infection.
On peut être détecté négatif et puis en fait en avoir ça se redéclare un peu plus tard.
Voilà. On peut avoir des anticorps et avoir lutté efficacement contre la bactérie et ne pas déclarer la maladie.
On peut rester porteur sain ou la bactérie peut rester.
Oui, ou est-ce qu'on est.
Oui, on peut.
Si on est porteur, est-ce qu'on est porteur quand. T'en as une infection active, après ils peuvent rester des anticorps, mais je crois que des anticorps contre le Borrelia, ils restent pas longtemps dans le corps. On continue pas à les. Mais j'en suis pas sûre. En fait.
Question, parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent des Pyrénées où il y a beaucoup de forêts qui vont dans le Valais. Et j'ai entendu parler que là-bas, c'est des fois grave parce que tout le monde est. Touché par des maladies tiques, des petits villages. J'ai entendu parler, corrigez-moi, jusqu'à 30% de la population est touchée,
c'est
qui
énorme.
Est énorme. Je me demande, en même temps que j'ai dit ça, est-ce qu'il n'y a pas une résistance qui s'installe automatiquement sinon, on va avoir des morts, des malades, comme des fous ici dans les coins.
Je connais quelqu'un qui a été déclaré donc porteur de la borréliose, qui avait des anticorps et qui n'a jamais eu de séquelles. Et dans mon village, probablement plein de gens l'ont et ne développent pas de séquelles parce qu'ils luttent efficacement contre la borréliose et ne développent pas de maladie. Et puis d'autres que je connais aussi qui sont tombés malades, mais gravement malades, après une seule piqûre de tique. Parce qu'ils venaient d'une autre région où il n'y en avait pas. Voilà. Et à la première piqûre de tique, ils ont été vraiment très très malades. Ici,
on est dans une région particulièrement infestée, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est dû à la végétation? Est-ce que c'est le climat?
C'est dû au fait finalement qu'on est dans des endroits où il y a le biotope idéal pour la propagation du tique, et puis qu'il y a des populations de cervidés aussi qui importantes et qui entretiennent la propagation de la maladie, qui la favorisent. Voilà. ça dépend aussi de la faune existante. Plus la faune est abondante et plus il y a risque de pullulation de l'espèce de tique. Je vois le village de Sotte, par exemple, il y en a énormément de tiques. Des années à tique, et on peut pas marcher dans les arbres hautes.
Et les zones où il y a de la forêt, des arbres et des et de la grosse faune favorisent les tiques.
C'est ça.
Ouais, je crois qu'à ce moment, le forêt est en train de descendre à la montagne. Parce qu'on cultivait beaucoup plus avant. Alors maintenant, c'est le plus qui est sauvage, le plus qu'il y a de cerfs, le plus qu'ils amènent vers les populations d'éthique.
Et puis, il faut dire un phénomène qui va non plus nous faire de l'espoir, c'est que le réchauffement climatique de 2 degrés va doubler les populations d'éthique sur cette terre. Bonjour.
Et à noter aussi, peut-être pour conclure le sujet, qu'il y a des pétitions en cours qui sont là pour la reconnaissance de cette maladie. Et par exemple, chez mon médecin, j'ai pu rencontrer cette pétition. Voilà, parce que c'est une maladie qui est très peu reconnue. Il y a assez peu d'études dessus. Et même les malades de Lyme ont parfois des difficultés à avoir une reconnaissance de leur maladie.
Sans mal diagnostiquer. Moi, pendant longtemps, ils m'ont dit que j'avais de sclérose en plaques. Et finalement, j'ai insisté pour une prise de sang et ils ont trouvé ça. Mais en même temps, ça dépend tellement sur l'état de notre corps, comment ça va se présenter.
Et le corps médical est commencé à te soigner pour une sclérose en plaques ou tu commençais le protocole de soins
Non.
Ou...
Non, quand non même. J'ai parce insisté que c'est quand même pour, quand pour le prise de sang, pour le Lyme, parce que j'avais passé beaucoup de temps en France et je me suis fait piquer plein de fois par des tiques. Mais tout le recherche que je cherchais à l'époque venait beaucoup des États-Unis. Et le Borrelia là-bas, c'est, je crois, plus agressif qu'ici. Alors ça m'a fait très peur, parce que tout ce que je lisais, c'était effrayant. Finalement, je me suis rendu compte qu'on est dans une région où il y a beaucoup de tiques, et c'est bien possible que la plupart des paysans, ils ont été infectés, mais ils ne sont pas malades. Alors ça m'a donné de l'espoir. Pourquoi eux ils sont malades, mais moi je suis tombée malade pendant une période de grand stress dans ma vie. C'était bien possible que je me suis fait infecter beaucoup avant. Je n'avais pas des symptômes.
Parce que tu avais une faiblesse et ça a pu s'installer, parce que ça s'installe soit sur les articulations, le système neurologique ou le système nerveux.
Plus que ça se dissème, le plus longtemps que c'est dans le système et pas soigné, ça peut se disséminer. Et c'est une bactérie spiroquette qui peut traverser la barrière entre le sang et le cerveau. Alors ça présente avec des symptômes neurologiques. Mais ça se trouve aussi dans les articulations, avec des symptômes rhumatiques. Je crois que c'est Pasteur, en fait, c'est Jean-Claude, qui est peut-être... nous aider. C'est même après toutes ces études sur le pénicilline, il a dit finalement que c'était tout dans le terrain. Je crois que c'est ça. C'était tout dans le terrain. Alors de chaque personne.
Oui. Tout dépendait du terrain de chaque personne.
Oui, la pénicilline a été découverte plus tard, mais sur Pasteur est à l'origine de l'asepsie, c'est-à-dire des infections, etc. Et c'est vrai qu'il a décrit le premier la notion de terrain. Il a montré que ces poulets ou ces poules qui étaient exposées au froid attrapaient les germes plus facilement que si elles étaient élevées dans un milieu normal, etc. C'est les premières notions de terrain.
Donc, c'est le contexte un petit peu de la personne qui fait qu'elle est plus ou moins sensible.
Voilà.
Qu'on est tous différents. Comme,
peut-être qu'il y a des, comme pour la tuberculose, il y a des primo-infections qui protège en quelque sorte après l'individu, on ne sait pas.
Sûrement, je pense que les paysans, dans le temps, par rapport à leur alimentation, à tout ça, avaient une meilleure résistance, et peut-être qu'on ne le voyait pas aussi bien que maintenant.
Il y avait un
Bah oui, on déclenche beaucoup plus de maladies.
Il faut dire que le système nerveux est soumis à des pollutions et qu'il est mis à mal quand même, entre les pollutions électromagnétiques, chimiques ou autres.
Là, tout ça
il faut peut-être
fait
qu'aggraver notre faiblesse à ce niveau-là. Notre faiblesse à d'autres niveaux. À noter quand même, peut-être pour finir le sujet sur une note qui peut rassurer certaines personnes, il existe des répulsifs pour se protéger et des répulsifs qui sont à base d'huile essentielle. qu'on peut mettre sur les chaussures, les chaussettes. Donc c'est sûr que si on vit dans la montagne constamment, on peut pas s'en mettre tout le temps. Mais pour voilà, des gens qui vont venir nous rendre visite dans les montagnes, ça reste possible.
La pêche à la ligne.
Pour la pêche à la ligne.
Et les pintades. Les pintades, ils adorent les tiques. Ils mangent les arachnides. Mais ils adorent les tiques.
Alors oui. Et moi, je mange des pintades.
Et une belle harmonie.
Il y a un système de protection qui est assez simple.
On recycle.
Un système de prévention qui est assez simple, c'est de mettre des pantalons et des t-shirts à manches longues et un chapeau quand on va se balader en forêt.
Et blanc, parce qu'on remarque beaucoup plus facilement une tique qui est noire sur un pantalon blanc.
Et il y a des saisons aussi, au printemps et début d'été, il y a beaucoup plus de tiques qu'en fin d'été.
Quand il pleut, elles se planquent. Oui. Donc on les a cantées en climat sec, quasiment.
Il n'y a pas longtemps, il y en avait encore. Hein.
Des tiques, oui.
Et c'est revenu à l'automne.
Ça limite aussi la population.
Ben, un tique, c'est un être exceptionnel. Si je me rappelle bien, dans Le Parfum, cet roman, il y a Grenouille qui veut apprendre à devenir comme une tique. Parce qu'une fois nourrie, elle peut combien de jours vivre sans se nourrir et sans
boire ? C'est énorme, c'est des années. Elle peut rester des années accrochées. Accrocher ou se planquer, enfin bouger, mais sans manger. Et alors elle attend comme ça, en levant les bras, enfin c'est une image, en levant ses pattes, accrochées.
C'est vrai.
Ouais, accrochées sur la tige. Et puis hop, vous passez, tac, elle referme ses pattes et elle s'accroche à vous. Et elle peut attendre effectivement des années comme ça.
C'est pas une bête idéale pour la consommation de notre société, hein, ça achète pas assez quoi.
Et donc on a trouvé des prédateurs, tu disais la pintade.
J'en connais pas d'autres.
Non, je connais pas d'autres.
Sur le problème, effectivement, la régulation biologique.
Ce qui est un peu dangereux, à ajouter aussi, si vous avez un chien et vous mettez cette magnifique collier anti-tique, touchez-le pas trop souvent parce que...
Neurotoxique.
C'est assez dur.
Et surtout attention aux enfants.
Il y en a des... on l'huile essentielle. Mais bon, ils ne sont pas si efficaces.
Mais ce n'est pas efficace, même ceux qui ne sont pas aux huiles essentielles.
C'est le fipronil, hein. C'est l'insecticide qui tue les abeilles.
Ah ouais.
Qu'il y a dans les produits pour chats et pour chiens.
Ah ouais.
Mais d'action localisée, on le met.
Les petites pipettes avec le liquide bleu, c'est le fipronil.
Là, c'est léché.
Ah ouais, donc pour les apiculteurs, n'utilisez pas les mêmes gants pour traiter votre chien que pour aller voir vos abeilles.
On dira à Christian.
Ne traitez pas, mettez du. Moi, je mets à Gabi. Mon petit Gabi, j'y mets de la lavande, ça marche très bien. Je mets quelques gouttes essentielles de lavande, un peu au-dessus du crâne, dans le cou, derrière la queue, et c'est très bien.
Il sent
bon. Il sent bon, c'est parfait.
Faire attention
sur
les...
et ça le protège.
Faire attention sur les petits animaux qui ont une peau assez fine, qui sont très sensibles, c'est assez fort les huiles essentielles. Sur les chatons ou les choses comme ça, c'est...
Les huiles essentielles, de toute façon, en manière générale, la toxicité est liée à l'excès de dose.
Les concentrations.
Les concentrations, parce que c'est des concentrations très très fortes.
Je voulais juste te poser une dernière question, Sarah, par rapport à quelqu'un qui a attrapé la maladie de Lyme et qui s'est soigné. Est-ce que tu es susceptible de le réattraper? Est-ce que tu as développé des anticorps qui font que, quoi qu'il arrive, tu passes à côté ou...
Ben justement, je crois qu'on garde pas longtemps les anticorps. De ça, j'en suis pas sûre.
D'accord.
Alors, mais ça veut pas dire que selon notre état de santé, on n'est pas plus susceptible que d'autres pour le rattraper. Mais
non, parce que par rapport à certaines maladies, on les attrape une fois et après, c'est pour ça que je me pose la question.
Ah, okay, non, je crois qu'on peut le rattraper.
D'accord.
Qu'on garde pas très très longtemps les anticorps.
Je pense pas qu'on soit vacciné.
Merci Sarah de nous avoir présenté ce sujet.
Merci à vous.